Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast, bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, je vous propose une escapade en dehors de nos métiers. Aujourd'hui, j'interroge Claire Gibault. Claire Gibault est chef d'orchestre. Comme pour un artisan d'art, la technique et la poésie font partie de sa vie. Interpréter une intention créative, coordonner des savoir-faire, transmettre un geste, chercher l'harmonie. On retrouve dans le langage de Claire Gibault les mots de l'atelier. Les fidèles de notre odyssée sonore des métiers d'art ne seront pas dépaysés. Bonjour Claire Gibault.
Bonjour Raphaël.
C'est inhabituel pour moi d'interviewer une femme chef d'orchestre, mais je vais jouer à vous poser quand même les questions que je pose aux artisans d'art. Et la première d'entre elles, c'est comment la matière est entrée dans votre vie? La matière étant la musique en ce qui vous concerne.
Tout naturellement, tout simplement, mon père enseignait au Conservatoire du Mans et en plus il avait la classe de solfège pour les débutants. Donc à 4 ans, en même temps, j'apprenais à l'école à lire les lettres et avec lui, j'ai appris à lire les notes.
Et c'était un souhait pour lui que ce soit un parcours de vie pour vous, le parcours de la musique?
On n'avait pas défini. Je ne pense pas que les choses se définissent comme ça. En tout cas, ce qui était un souhait de sa part, c'est que ses enfants apprennent la musique et après qu'ils deviennent musiciens, amateurs ou professionnels, ce n'est pas tout à fait nous qui décidons, c'est aussi la société.
Certainement, mais en fait, c'est une question, pour le coup, qu'on pose beaucoup dans les métiers d'art, parce que c'est pas forcément un parcours qui rassure les parents quand les enfants choisissent un parcours dans les métiers d'art. Dans votre cas, vous, un parcours dans la musique, c'est vécu comment dans la société? Est-ce que c'est vécu comme un parcours valorisant?
Alors, j'ai eu un parcours particulier dans la musique, parce que si j'avais décidé de devenir violoniste, puisque j'ai étudié le piano et le violon, je pense que ça n'aurait pas posé de problème. C'était normal, ni plus ou moins valorisant. Mais le fait de vouloir devenir chef d'orchestre, je l'ai décidé à 13 ans. Ça a quand même bousculé un peu la famille. Et mes parents, de toute façon, ont exigé que je passe mon bac, que je commence des études universitaires avant de me dédier complètement à la musique. En effet, je suis d'un milieu très simple où mes parents avaient leur certificat d'études et leur ambition, c'était que leurs enfants fassent des études sérieuses et abouties.
C'est sérieux la musique? C'était jugé sérieux, j'imagine.
Ben, il fallait que je passe le bac quand même.
Parce qu'en fait, pour le coup, ça c'est comme dans les métiers d'art, il y a une voie hors bac pour faire directement que de la musique, par exemple après la troisième, ça existe ça dans la musique?
Maintenant, il y a des classes à horaires aménagés et on peut suivre son cursus scolaire en même temps qu'un cursus musical et c'est intégré dans l'éducation nationale.
D'accord.
Mais dans mon enfance, ce parcours-là n'existait pas. Il y avait l'école obligatoire jusqu'à, je ne me rappelle plus, 16 ou 18 ans.
16 ans, je pense.
Oui, voilà. Et après, on faisait comme on voulait. Et les études musicales sont très, très longues. Mmh. Si on veut venir concertiste, je ne sais pas, c'est une douzaine, une quinzaine d'années de travail sur son violon. Et chef d'orchestre, donc j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai eu un prix de direction d'orchestre au Conservatoire du Mans, puis après je suis rentrée au Conservatoire national supérieur de Paris, seule femme dans la classe. Quand il y avait le concours d'entrée, il y avait que 2 places. J'ai eu la première, donc vous voyez, c'était vraiment le combat. Et puis je suis sortie avec un premier prix, première nommée, 3 ans après. Et voilà,
Oui,
c'est.
vous avez eu le parcours exceptionnel qu'on connaît. Et alors, quand je commence à vous poser la question de la musique comme une matière, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous paraît un peu tiré par les cheveux?
Non. C'est très charnel. De toute façon, la musique, c'est aussi une discipline, donc c'est une matière. Non, je trouve tout à fait un vocabulaire adapté.
Et justement, dans cette métaphore entre les métiers d'art et la musique, vous avez une matière et vous avez un outil. Un outil qui est votre baguette avec laquelle vous dirigez ou non. Vous vous en servez pas systématiquement de cet outil d'après les vidéos que j'ai regardées de vous. C'est quoi votre rapport à cet outil-là?
Alors, je l'explique quand on va faire des rencontres dans les collèges et lycées, et même les petites écoles, parce que tous les enfants sont fascinés par la baguette et ils se demandent bien à quoi ça sert. Ben, au fond, la baguette, ça sert à rallonger le bras droit quand on est droitier et à donner de la clarté et de la précision. Alors, tout dépend du répertoire qu'on dirige et du nombre de musiciens. Voilà, parce que si c'est pour donner de la clarté, la baguette, je l'utilise surtout avec un grand nombre de musiciens. Et je l'utilisais beaucoup à l'opéra aussi, parce que dans la fosse d'orchestre, diriger les chanteurs et les chœurs qui sont quelquefois très loin au fond de la scène, la baguette, prend la lumière. Elle est vraiment un point de repère pour les gens qui sont costumés, qui bougent et qui chantent en même temps sur la scène. Et pour les concerts symphoniques, les œuvres qui sont assez complexes sur le plan rythmique et qui demandent une grande précision pour la mise en place des musiciens ensemble, la baguette peut apporter cette précision. Mais il est vrai que quand je dirige Mozart, Haydn, même Schubert, où l'orchestre n'est pas pléthorique, je dirais même que la baguette pourrait enlever quelque chose en donnant trop de précision. Ce qui fait la qualité de l'interprétation quand on joue ces œuvres-là, c'est qu'on est bien préparé. Les musiciens à jouer presque tout seuls, et même à jouer tout seuls, ils peuvent jouer sans vous. Ils n'ont pas besoin de vous pour être ensemble. Donc, mes mains sont plus expressives que ma baguette. Et quand on dirige Mozart, c'est d'abord donner le tempo, c'est donner un style. C'est bien préparer toutes les articulations, le phrasé, les dynamiques. Mais ça, j'ai pas besoin de la baguette.
Et cet objet baguette, est-ce que vous avez une relation un peu fétichiste avec cet objet-là? Est-ce que vous en avez plusieurs? Qui est-ce qui vous le fabrique? Où est-ce qu'on les achète? Racontez-nous un peu cet objet-là.
Alors, moi, je suis pas fétichiste avec la baguette, mais il y a des gens dans le public qui le sont.
Avec votre baguette qui rêverait de récupérer les
Oh,
baguettes?
bon, je parle pas pour moi, mais
Oui, mais en
les
général.
baguettes d'Abbado, il m'en a offertes quelques-unes après ses représentations. Je les ai toujours. C'est voilà un souvenir de notre amitié et de tout ce que j'ai appris de lui. Mais non, moi, j'en ai pas acheté, mais depuis si longtemps.
Mais oui, c'est très
J'en ai
durable.
deux et ça m'est arrivé en dirigeant d'ailleurs qu'elle m'échappe et qu'elle parte dans le public et que quelqu'un me la rapporte. Mais non, je n'ai pas de fétichisme avec la baguette du tout.
C'est en bois, c'est toujours en bois, une baguette?
En fibre de verre maintenant.
Ah, c'est en fibre de verre.
Oui,
D'accord.
mais il y a un petit bout en liège au bout, parce que c'est le bois le plus léger, le liège, et que porter une baguette pendant 6 heures par jour, quand on a les répétitions, les concerts même quelquefois plus, eh bien, c'est fatigant pour le muscle qui tient le pouce. Et ça peut engendrer ce qu'on appelle un tennis elbow, si on tient sa baguette de façon très contractée. C'est vrai que la tenue de la baguette, tu m'aperçois quand je donne des masterclass, n'est pas aisée et pose problème aux jeunes chefs d'orchestre. Elles crispent leurs bras, du coup, le bras n'est plus aussi souple, expressif, parce qu'au fond, ce vers quoi on tend, c'est que le geste du chef d'orchestre, il incarne complètement et sa pensée et son affect, et que ces trois composantes de la personne soient complètement réunies et présentes ensemble. Et ça, on l'acquiert au bout de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Il faut avoir sans doute fait un chemin personnel. Mais au début, je vois que la baguette embarrasse beaucoup les étudiants.
Oui, c'est intéressant. Et justement, vous parliez de ce tennis elbow et de ce rapport au corps. Et c'est également une question qu'on aime beaucoup poser aux artisans d'art. C'est où est-ce que vous avez mal le soir après une journée à l'atelier? Vous, vous avez mal où?
Il y a très longtemps, les premiers jours où je dirigeais, je me souviens, j'avais mal partout. On avait tous mal partout. Des pieds à la tête. Et je pouvais même plus descendre des escaliers tellement j'avais de courbatures partout. Parce que, en plus de l'utilisation des bras, il y a la posture sur ses jambes. Et si on a du stress, tout ça est bien crispé.
Bien sûr.
Ces muscles-là, utilisés par les chefs d'orchestre, ils sont maintenant tout à fait prêts. J'ai plus besoin de les entretenir. Ils sont là, ils sont prêts à fonctionner et ils ne me font pas souffrir. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, de travailler avec la méthode Alexander pour que ma force et mon énergie ne passent pas par mon cou ni par mes épaules, mais elles viennent de beaucoup plus bas, du bas du dos. Et c'était aussi tout un travail de mettre sa respiration au bon endroit et indépendante des gestes.
Et cette méthode Alexander, c'est une méthode, une discipline physique, c'est ça?
Oui, il y en a différentes. Hein. Il y a la méthode Feldenkrais aussi. C'est une prise de conscience par le corps des tensions que la pensée engendre.
Mais c'est très intéressant pour les artisans, ça. Il faut qu'on creuse.
Oui, c'est très intéressant.
Mais bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a eu des anges gardiens qui vous ont permis d'avancer sur votre parcours? Est-ce qu'il y aurait des noms que vous auriez envie de nommer aujourd'hui, peut-être pour les remercier, de personnes qui vous ont tenu la main, permis de monter certaines marches?
Bien, la personne la plus importante pour moi, ça a été Claudio Abbado, ce grand maestro italien. J'ai été son assistante pour Pompéléas et Mélisande de Debussy, à la Scala de Milan, ensuite à Covent Garden à Londres, ensuite à Vienne en Autriche, et je l'ai aidé à créer l'orchestre Mozart de Bologne. C'est d'ailleurs avec sa bénédiction que j'ai créé le Paris Mozart Orchestra, puisque le mot orchestra est féminin en italien, on avait dit que c'était la première petite sœur, c'était le Paris Mozart Orchestra.
C'est un bel ange gardien. Vous avez donc eu cette chance-là, mais j'ai l'impression de ce qu'on connaît de votre parcours, que vous êtes vous-même aujourd'hui ange gardienne pour beaucoup de femmes dans le milieu de la direction d'orchestre. Vous avez créé un prix, la Maestra. Donc vous avez créé un prix qui récompense les femmes chefs d'orchestre internationales pour leur donner plus de visibilité. Justement, par rapport à cet ange gardien-là et les personnes qu'aujourd'hui vous guidez, ça c'est un sujet qui ramène aussi au métier d'art, c'est celui de la transmission, et notamment la transmission par le corps. Comment vous transmettez-vous, justement? Est-ce que c'est par les mots? Est-ce que c'est par l'exemple? Est-ce que c'est un sujet que vous aimez, la transmission?
Oui, j'ai découvert ça assez tardivement, puisque je donne des masterclass de direction d'orchestre. j'allais dire d'abord très égoïstement, j'aime beaucoup transmettre parce que ça m'apprend beaucoup de choses et que j'espère que je vais apprendre de, tout le temps, jamais n'arrêter d'apprendre. Oui, je vois chez les jeunes gens et les jeunes filles des problèmes que j'ai rencontrés quand j'étais plus jeune et j'essaie de les aider à les surpasser, ces problèmes, et surtout les connecter à leur sensibilité. C'est pas si facile que ça, que tout ce qu'on ressent à l'intérieur puisse s'exprimer avec le corps.
Ça me paraît presque miraculeux qu'on puisse apprendre à quelqu'un à faire ça. C'est pas avec des mots que vous arrivez à connecter quelqu'un à sa sensibilité, si ?
Mais on guide, par exemple. Je laisse diriger une jeune fille ou un jeune homme, et puis je les arrête, je les fais reprendre, et je leur explique... D'abord, techniquement, pourrait ne pas convenir à l'orchestre pour que le geste soit compréhensible, mais surtout ce qui n'est pas expressif et la façon dont ils peuvent être extrêmement contractés et tendus, qui empêchent les musiciens de s'exprimer, qui rend leur geste totalement dur et inexpressif et qui peut créer un son dans l'orchestre pas du tout agréable. Parce que les musiciens qui sont en face du chef d'orchestre, ils comprennent le langage corporel du chef. Quelquefois, on n'a même pas besoin d'utiliser les mots. Il y a des grands violons solos d'orchestre, comme celui qui était avec le Paris Mozart Orchestra, comme Eric Lacroutz, qui a joué sous la direction de beaucoup de grands chefs d'orchestre à l'opéra, ou même en concert. Et je dois dire que quand il est mon violon solo, je pense que même si je déplace mon petit doigt de 3 cm, il change quelque chose de son geste. Il comprend la moindre nuance et volupté du geste. Mais dans l'ensemble, c'est un espèce d'échange avec les musiciens par le regard. On a le pouvoir, sans doute, de les libérer, de les mettre en confiance, qu'ils soient à l'aise pour être créatifs. On fait voir aux jeunes comment ils peuvent bloquer les musiciens et la relation avec le chef. Et ce qu'il faut dans leur corps améliorer pour que toutes ces énergies-là circulent.
Ouais, c'est intéressant. Et la transmission, elle se fait à vos élèves, entre guillemets, mais elle se fait aussi au public. Et c'est une démarche que vous avez pour amener la musique classique, dans la société. Et il y a une phrase que vous dites et que nous, on dit aussi beaucoup, c'est « changer le monde par la beauté ». Et vous, vous le faites à travers la musique. Ben, j'aimerais que vous nous racontiez cette démarche-là. Est-ce que ça marche? Parce que nous, on essaye de le faire, mais on est beaucoup plus récents que vous dans cette volonté-là de démocratiser pour nous la beauté de la matière, la beauté des objets, pour éduquer l'œil et pour remettre la beauté dans le quotidien des gens. Vous, vous le faites par la musique. Est-ce que vous voyez que ça a un impact?
La notion de beauté, chacun en a une différente, hein. Quand on va dans les collèges et lycées de banlieue ou les écoles maternelles, les références de beauté ne sont pas forcément les mêmes que celles que nous, on apporte. C'est ça qui est intéressant, c'est d'élargir le point de vue, élargir l'ouverture d'appréhension du monde de ces jeunes. En tout cas, je me souviens formidablement bien d'une œuvre qui était musicale, d'Edith Canaccisi, qui était construite sur les tableaux de Nicolas de Staël. Enfin, c'était des extraits des lettres de Nicolas de Staël à sa famille, mais aussi à René Char. Jamais ses enfants n'avaient entendu parler ni de René Char, ni de Nicolas de Staël, ni d'Edith Canaccisi. Et d'eux-mêmes, ils ne seraient jamais allés vers ça. Mais je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, il les appelait par leur prénom, et que ça les a fascinés. Mais ça les a fascinés aussi parce que derrière ces œuvres artistiques, esthétiques, il y avait un destin humain. Le destin de Nicolas de Staël est fantastique. Il les a beaucoup émus. Il écrivait aussi bien qu'il peignait, et les lettres qu'il a écrites les ont bouleversées. Ils s'y sont reconnus, et ils se sont mis à écouter la musique contemporaine, très ardue, hein, d'Edith Canaccisi, déjà remplie d'autres choses, et ils ont commencé à comprendre les correspondances entre les arts, toutes ces correspondances qui peuvent exister.
Il est évident qu'on ne peint jamais que des choses, formes, tâches, fort simples. Est-ce qu'un tableau peut être tâche ou rien d'autre? Je n'en sais rien.
Je pense que oui, on contribue à changer le monde, à sauver ça, je ne sais pas, mais à changer le monde. Vous savez, il y a différentes façons de faire de l'éducation artistique et il n'y a pas que la nôtre et pas que la mienne. Mon credo, moi, c'est que ces enfants, ces jeunes qui pensent toujours qu'ils n'auront que les miettes du festin et qu'on leur offrira que les choses de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, je crois qu'il faut leur apporter ce qu'il y a de plus exigeant, plus branché, ce qu'ils pensent qui est réservé pour l'élite. Quand on leur explique bien, c'est vrai, ça demande un travail de préparation, on ne peut pas livrer les choses comme ça. Il y a un travail d'accompagnement. Bien, quand on leur explique bien les choses, on a des standing ovations et des co-créations formidables. Des classes entières qui se sont mises à peindre à la manière de Nicolas de Staël, à écrire des lettres à la manière de Nicolas de Staël, et puis à composer des musiques parce qu'ils comprenaient qu'il y avait des sons qui évoquaient des couleurs, des formes, tout ça. C'est des projets au long cours. On ne débarque pas et on ne s'en va pas, quoi. On reste auprès d'eux, c'est un travail de compagnonnage, il faut bien ça.
Et justement, est-ce qu'ils ont accès ensuite à des formations s'ils souhaitent embrasser cette voie-là? Est-ce que les formations à votre discipline, à votre excellence, sont ouvertes au public défavorisé? Est-ce qu'ils en ont connaissance? Est-ce qu'ils sont accueillis? Est-ce qu'il y a des bourses?
Alors, ce n'est pas le travail du Paris Mozart Orchestra.
Non,
nous,
sûr.
On crée des passerelles et on leur indique les voies. Mais on ne peut pas tout faire, c'est
bien
vrai.
Sûr.
Mais l'éducation nationale les accompagne, ils sont aussi entourés d'informations pour tous les ateliers ou l'éducation artistique qui peut exister en dehors du temps scolaire. Écoutez, il y a une très belle histoire. Je me souviens qu'au lycée Clémenceau de Villemomble, justement, on jouait une œuvre où il y avait beaucoup de percussions. C'était une œuvre de la compositrice Graciane Finzi. Héros des villes, héros des champs. On était dans le tout petit auditorium, enfin, si on appelle ça auditorium, c'est pas tout à fait ça, du lycée Villemomble. Et on échangeait avec les élèves. Et je dis tout d'un coup, ce qui était tout à fait normal comme question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent d'un instrument de musique? Et un grand garçon se lève. Je me dis, oui, madame, moi, je joue de la percussion. Je lui dis, veux-tu venir nous rejoindre et faire une petite impro avec les musiciens de l'orchestre? Oui, il vient. Et il joue avec les musiciens de l'orchestre. Petite chose, 5-6 minutes, comme ça. Et il me dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà. À chaque fois qu'on donnait un concert dans une salle, il venait nous écouter, il venait me voir à la sortie. Il était sur tous les réseaux sociaux à nous suivre, à rester en contact avec nous. Et on est allé dans ce lycée 2 ou 3 années de suite. Et puis, cet été, j'étais en train de préparer la nouvelle création qu'on donne toute cette année dans les collèges et lycées, qui s'appelle « Beethoven l'Africain ». Qui est une création du compositeur Fabio Vacchi sur des extraits de l'aide de prison de Nelson Mandela. Dans cette œuvre, Fabio Vacchi utilise des petites citations de Beethoven, mais il utilise aussi beaucoup de citations de musique africaine, et particulièrement avec des instruments à percussion africains. Et on avait beaucoup de mal à trouver un percussionniste dans notre staff qui savait jouer des instruments africains. Je mets un message sur Instagram à Taylor et je lui dis « Peux-tu me rappeler le plus vite possible ?» Une minute après, il m'appelait et je lui ai dit « Où en es-tu ?» Il me dit « Ben voilà, j'ai eu mon bac, je suis rentrée au conservatoire de Neuilly-sur-Marne en classe de percussion et là maintenant j'entre en musicologie à Saint-Denis. » En l'université, voilà, il me dit, j'ai décidé de faire de la musique ma vie. Et je lui dis, toi qui es africain, est-ce que tu sais jouer des instruments africains? Il me dit, non, pas du tout, parce que je suis complètement dans la musique européenne. Je lui dis, mais est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un stage sur instruments? Il me dit, bah oui, et comment, ça me plairait beaucoup. Alors, on a acheté les instruments africains, on a organisé un stage pour lui. Et c'est lui qui nous accompagne pendant tous les concerts que nous donnons dans les établissements scolaires, mais que nous donnerons aussi à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris. Voilà. Donc, c'est le voilà, ce qu'on aimerait qu'il se passe le plus souvent.
Ouais, quel beau parcours, ça donne envie d'aller le podcaster, ce Taylor. Quelle histoire et quel destin, c'est magnifique. Il y a une autre question sur laquelle j'aurais envie de vous emmener, qui est celle des termes techniques. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans les ateliers, c'est d'entendre des mots qu'on ne comprend pas. Et moins on les comprend, et plus on est content. Est-ce qu'il y a des mots de votre métier que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui?
Du métier de chef d'orchestre?
Ah oui, des mots de la musique, des mots... Les mots techniques, de mon point de vue, hein, même quand on ne les comprend pas, ont une poésie en eux. Et c'est beau de les écouter et de les entendre. Et métier par métier, on essaye ici d'avoir une litanie de ces mots-là. C'est pas grave si on ne les comprend pas.
Alors, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est émiol.
Ah, j'ai envie de savoir ce que ça veut dire quand même.
Bien, c'était une façon dans la musique baroque ou même classique de regrouper des mesures pour déplacer des accents. C'est peut-être très difficile à vous dire. Tout d'un coup, par exemple, si on a deux mesures à trois temps et que ça fait pam 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 pam, si on les regroupe par deux, on peut faire pam 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 pam. C'est une façon de rompre ce qui pourrait être trop habituel et qui ça apporte une saveur à la structure rythmique. Voilà.
Il est magnifique ce mot-là. Vous en avez un autre qui vous vient en tête?
Depuis 10 ans, on crée et on commande des mélologues. Et même les musicologues les plus avertis, quelquefois, me disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
Alors là, j'ai le droit de poser la question, du coup.
Oui. Et au fond, en italien, « mélologo », ça vient du grec « mélos » et « logos ». Mélos, ça a donné mélodie, et logos, c'est le verbe, c'est voilà, la parole. Jean-Jacques Rousseau a écrit le premier mélologue, peut-être, de l'histoire de la musique. C'est un genre musical qui donne autant d'importance au texte qu'à la musique. C'est-à-dire que ce n'est pas la musique qui prédomine, ni le texte, il y a une égalité. Et c'était très intéressant. Parce que les professeurs de différentes disciplines dans les collèges et lycées sont emparés de nos sujets. Il n'y avait pas que la voix musicale comme approche. Il y avait d'autres possibilités. Après, le mélologue a été développé, même Berlioz utilise ce mot. Et je vois qu'en Italie, on crée beaucoup de mélologues, peut-être aussi en réaction au genre de l'opéra, où le texte disparaît sur la musique, où on répète 10 fois la même phrase, et au fond, le texte n'a pas vraiment d'importance. C'est le chant, c'est l'aspect plus charnel de la musique qui est mis en avant. Avec le mélologue, on a un dialogue entre deux fonctions, la fonction charnelle et la fonction intellectuelle. J'aime beaucoup ça.
C'est magnifique. On a envie de s'approprier ce concept-là, de réunir la main, l'intelligence, la pensée et le geste. Alors, ce podcast termine souvent avec une question, mais alors ça me fait drôle de vous parler de baguette à vous, mais je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour le Paris Mozart Orchestra?
Eh bien, nous trouver un lieu de résidence, nous trouver des subventions publiques et privées, nous permettent de réaliser tout ce que nous avons envie et prévu.
Vous donner les moyens d'agir.
Absolument. La Maestra a été enregistrée, diffusée en direct sur Arte Web Concert. Et notre orchestre, le Paris Mozart Orchestra, a déclenché une passion de la part de cette chaîne parce que les musiciens sont extrêmement heureux, se sourient, regardent, jouent, sont vivants, intéressés, et que c'est pas tout le temps qu'on voit un orchestre
plein de vie,
se donnant à fond et avec bonheur. Donc on est très suivi par Arte et on a plein de projets avec eux. On a la Folle Journée de Nantes aussi nous retient, là on est vraiment tout à fait retenu.
Oui, donc comme vous dites, vous avez le vent en poupe. Ce Paris Mozart Orchestra, il intéresse
oui,
le grand public, il intéresse la presse.
On a des concerts programmés à la Philharmonie de Paris jusqu'en 2024.
C'est magnifique.
6 concerts en vue là. Donc ça, c'est très rare pour un ensemble. C'est vrai qu'on a le vent en poupe, mais ça nous crée des frais nouveaux. Il nous manque de l'argent pour arriver à accomplir ce qu'on attend de nous.
Et on parle de quoi comme argent? Est-ce qu'on peut le dire? Et vous manquerez combien pour accomplir ce qu'on attend de vous?
Cette année, il nous manque 100 000 euros.
D'accord.
Mais il va falloir trouver davantage parce que notre mécène principal qui nous adore, qui nous suit depuis 10 ans, voudrait bien nous laisser s'envoler, quoi. Mmh. Il ne veut pas être toujours le truc indispensable pour qu'on ne s'écroule pas.
Est-ce qu'on peut dire son nom ou est-ce que c'est quelqu'un qui reste discret?
Bien sûr, c'est Daniel et Nina Carasso, c'est la Fondation Carasso. Et on cherche un nouveau mécène qui prenne la succession de la Fondation Daniel et Nina Carasso, qui jamais ne nous abandonnera. Mais on comprend que par éthique, il faut qu'on prouve.
Que vous tenez debout, que ça y est.
Oui.
Eh bien, c'est entendu.
Bon, ben, marché conclu.
Merci Claire Gibault.
Merci Raphaël.
Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.